du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc nous avons cette opportunité d'étudier la dimension pneumatologique de la liturgie, justement dans cette semaine qui est la première semaine de carême, et où l'investissement liturgique est particulièrement important, presque aussi important que celui de la Semaine Sainte, puisque dans toutes les églises qui le peuvent, en tout cas, on entend tous les soirs le canon de Saint-André de Crète dans l'office des grandes complies, et on participe également à la divine liturgie des présanctifiés, on dit la prière de Saint-Éphrem le Syrien, enfin il y a toute une richesse liturgique qui se manifeste pendant cette semaine-là, et qui annonce en fait que le carême est une période liturgique exceptionnelle, une période sacerdotale exceptionnelle, une période pendant laquelle, et c'est de ça dont je voudrais parler ce soir, pendant laquelle le peuple de Dieu se manifeste comme un peuple sacerdotal, un peuple célébrant. Donc il manifeste pendant ce temps-là ce qui est son essence, la qualité, une des qualités principales, et une des vertus, un des charismes, une des dimensions principales qui lui vient du Saint-Baptême, puisque le Saint-Baptême, comme on le sait, on peut y revenir éventuellement, le Saint-Baptême donne la communion avec la triple dignité, la triple richesse du Christ, c'est-à-dire sa prêtrise ou son sacerdoce, sa royauté et son esprit prophétique. Et donc le fait d'annoncer ce thème du sacerdoce des baptisés est particulièrement opportun avec une période où justement l'activité sacerdotale de l'Église va être particulièrement intense, plus intense que pendant toutes les périodes de l'année, puisque même les autres carèmes que nous avons, qui sont plusieurs, n'ont pas cet investissement, sacerdotal, c'est-à-dire cette démarche dans laquelle chacun se donne, s'offre lui-même à Dieu et au prochain d'une manière aussi intense. Alors ce soir, justement, je voudrais, dans le contexte qui est le contexte de ce cours que plusieurs d'entre vous suivent, c'est donc la place du Saint-Esprit, la dimension du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, mais surtout la présence du Saint-Esprit dans le culte chrétien qui, pour ces cours de cette année, me retient, comme vous le savez très bien. Et donc, si l'on parle du sacerdoce des baptisés, ou qu'on appelle également le sacerdoce royal, je vais y revenir, cette expression désigne en fait une assemblée liturgique et désigne le fait que l'assemblée liturgique de l'Église est constituée par l'Esprit Saint. Ça, on l'a déjà vu d'une manière ou d'une autre, disons. On a parlé de l'appel de l'Esprit, on a parlé de cette vocation de l'Esprit qui fait que nous nous constituons en peuple, mais cette vocation est une vocation de l'Esprit. Il n'y a pas seulement une vocation, bien sûr, c'est une vocation de Dieu, du Père, du Fils, mais c'est de l'Esprit. C'est l'Esprit qui appelle, et l'Esprit appelle pour un engagement et un don de soi tout à fait exceptionnel qui fait justement la qualité de l'Église. Si l'Église n'était pas convoquée par l'Esprit Saint, si elle n'était pas une assemblée liturgique constituée par l'Esprit Saint, ce serait simplement une communauté à registre moral où elle serait un groupe d'idées, de personnes défendant les idées religieuses, elle serait un groupe de biblistes par exemple, de personnes très 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 compétentes chargées d'expliquer la Bible, d'en comprendre le sens. Mais après, ce ne serait pas une assemblée charismatique, ce ne serait pas une assemblée pneumatique, si je peux employer ce mot au risque de faire rire, c'est-à-dire une assemblée animée par un tel souffle qui est le souffle même de l'Esprit. Or c'est cela qui nous intéresse dans la vie liturgique de l'Église, qu'elle soit justement insufflée inspirée, que la célébration soit inspirée, et que même, alors, tout ce qui découle de la célébration, c'est-à-dire qu'effectivement, la dimension éthique de la vie chrétienne, après tout ce qu'on peut dire, les prolongements sociaux, écologiques, moraux de la vie chrétienne, soient des prolongements de cette inspiration, qui ne soient pas des prolongements d'idées, ou de préceptes, ou de commandements formels, ou de directives, ou de lois, mais qui soient vraiment le prolongement de la loi même de l'esprit, qui est une loi créatrice. En fait, ce qui caractérise la loi de l'esprit, c'est que l'être humain accomplit la loi de Dieu et accomplit les commandements de Dieu, bien entendu, mais il les accomplit en les inventant. En les inventant. C'est ça la grande différence. Celui qui est dans le souffle de l'esprit, il accomplit toutes les lois, tous les commandements, tous les rites de l'Église, puisque nous parlons de la liturgie, toutes les formes du typikon qui doivent être respectées, enfin, l'ordo, tout ça, il l'accomplit, mais il l'accomplit en l'inventant. En l'inventant, et c'est de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin de que le peuple de Dieu soit un peuple qui accomplit la tradition, qui célèbre les offices de la tradition, qui obéit la tradition, mais en donnant l'impression à quelqu'un qui arriverait de l'extérieur qu'ils sont en train de créer un office qui n'a jamais existé, qui sont en train de passer un événement absolument unique, absolument nouveau. Un groupe d'amis s'est réuni dans un espace particulier tout de même, et ce groupe d'amis, donc, je ne sais pas comment dire, invente, suscite, découvre, produit des chants, des prières, des gestes, des mouvements qui sont absolument étonnants, qu'on n'a jamais vu nulle part, et qui ont la caractéristique d'être perçus comme totalement neufs. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, cette dimension de l'esprit, c'est ce qui nous fait ressentir la nouveauté, pas seulement de l'esprit lui-même, mais la nouveauté des formes, la nouveauté de l'Église, la nouveauté des paroles, la nouveauté des gestes, la nouveauté des rites, la nouveauté des sacrements, enfin, de tout ce qui s'accomplit en fait dans l'Église. Mais si nous n'avons pas ce sentiment de nouveauté, eh bien ça veut dire que nous n'avons pas le sentiment de la présence du Saint-Esprit. Ça veut peut-être dire que l'Esprit-Saint est là quand même, que c'est nous et dont les perceptions sont occultées, hein, parce qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit quand même. Et ce n'est pas parce que on ne ressent pas cette nouveauté qu'elle n'y est pas. La balle est peut-être dans mon camp, c'est peut-être moi qui ai besoin d'être renouvelé par l'Esprit Saint pour pouvoir percevoir justement cette nouveauté. Mais toujours est-il que cela est le véritable enjeu de la dimension pneumatologique et de l'Église et du peuple de Dieu et de l'activité de l'Église, qui est l'activité sacerdotale quand même de manière première, hein, c'est première, c'est donc que ce soit donc une assemblée qui donne des signes, des symptômes quand même spectaculaires de la présence du Saint-Esprit en elle. Alors je vous rappelle bien sûr des textes que vous connaissez parfaitement. C'est toujours difficile de parler de sujets qui sont censés être connus quand même. Encore que je trouve qu'on n'insiste pas tellement sur la dimension pneumatologique de la liturgie, et que c'est pour ça que j'ai choisi de présenter ce thème cette année. Mais vous connaissez les textes de l'apôtre Paul que je vous relis. C'est dans la première épître aux Corinthiens. C'est un texte très très beau et très intéressant. La première épître aux Corinthiens, le chapitre 12, que vous relirez en entier dès que vous aurez le temps, et vous allez avoir le temps, vous allez le prendre, bien entendu. Chapitre 12. Alors, je ne peux pas vous lire tout parce que ce serait trop long, mais c'est un texte qui est magnifique quand même, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 12, verset 13 principalement. Mais il dit avant, alors, il parle principalement, alors, il parle de deux réalités qu'il faut bien annoncer. Il parle d'une part des charismes du Saint-Esprit, et il parle d'autre part de l'Esprit Saint lui-même, c'est-à-dire de la personne du Saint-Esprit. C'est extrêmement important parce que c'est une réalité qui a été magnifiée beaucoup dans l'Église des Pères, la distinction, si vous voulez, entre les dons de l'Esprit et la personne de l'Esprit. Et l'apôtre Paul parle des deux, me semble-t-il. Par exemple, il dit « Il y a diversité des dons spirituels, mais c'est le même Esprit ». Vous voyez, ça c'est au verset, le verset 3, je crois, je ne vois pas bien, 3 ou 4, oui, bon. Donc vous voyez, c'est très très important cette expression-là. Parce que ça, on va y revenir un petit peu plus loin. L'Église n'est pas seulement la manifestation des dons du Saint-Esprit, une assemblée charismatique dans le sens où il y aurait tous les charismes du Saint-Esprit qui y sont présents, ce qui est vrai, mais l'Église n'est pas que cela. Elle est aussi le lieu où réside le Saint-Esprit en personne, et donc elle est habitée non seulement par les dons du Saint-Esprit, mais par le don du Saint-Esprit lui-même en personne. Vous voyez, c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Après ça, il fait un peu une liste, des dons, différents dons, la parole, la science, la foi. Donc, il fait, et chaque fois, il souligne que ces différents dons qui se manifestent dans l'Église sont l'expression d'une seule et même personne divine, l'hypostase du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il conclut au verset 11, « Tout cela, c'est le seul et même Esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. » Donc je vous demande de retenir cet enseignement-là, c'est-à-dire cette double affirmation, vous voyez, concernant l'Église. Quand on dit que l'Église est une assemblée liturgique constituée par l'Esprit, on va voir de quoi on parle. On parle en fait de deux registres différents, étant entendu que les dons du Saint-Esprit sont eux-mêmes, quand même, ils procèdent de la personne du Saint-Esprit, et par conséquent, ils sont, comme l'a dit toute la théologie orthodoxe, ils sont incréés. Les charismes ne sont pas des créatures, ne sont pas des vertus créées, ce sont des énergies du Saint-Esprit, et à ce titre, elles sont incréées, d'accord ? Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ce verset 13 du chapitre 12, de la première épître aux Corinthiens, dit « Nous avons tous été baptisés d'un même esprit pour former un même corps, et nous avons été abreuvés d'un même esprit. » Vous voyez, il insiste beaucoup sur l'unité de nous. Nous, c'est l'assemblée, justement, l'assemblée baptismale, l'assemblée ecclésiale, et l'assemblée sacerdotale. Eh bien, elle est un même corps, c'est une unité. Alors ça, c'est important, parce que si vous voulez l'unité, quand nous disons « je crois en une seule sainte catholique et apostolique Église », eh bien, l'unité, c'est l'unicité de l'Église, c'est-à-dire c'est l'unique esprit qui habite l'unique corps du Christ. Donc il y a une dimension d'unicité, et il y a une dimension d'unité également, mais qui se rapporte non seulement à la foi, mais à l'esprit. C'est important parce que, par exemple, du point de vue de la conversation entre les chrétiens de différentes communautés, nous mettons en avant justement l'unité de foi comme base de l'unité ecclésiale. C'est vrai, on ne va pas dire le contraire, évidemment. On aimerait bien que tous les chrétiens aient le même credo, croient en Jésus-Christ de la même façon, confessent l'Esprit Saint de la même façon, vénèrent la Mère de Dieu de la même façon, aient la même conception de l'unité de l'Église, etc. Ce serait évidemment formidable si les chrétiens accédaient à l'unité de la foi. Mais vous voyez que l'Église, justement, n'est pas que cela. L'Église, c'est l'unité de l'Esprit, d'un seul Esprit. Un seul Esprit qui fait que l'Église est une. Donc l'Esprit Saint, dans la définition de l'Église, ne se rapporte pas seulement à la sanctification de l'Église, qui est sainte, mais il se rapporte à son unité et à son unicité. Bon, alors, après ça, dans un autre passage, c'est toujours dans l'Épître aux Corinthiens, mais la deuxième Épître aux Corinthiens, versets 3 à 6, donc là aussi on retrouve cette même distinction entre l'Esprit, l'unique Esprit de l'unique Église, de l'unique corps de l'Église, et la diversité, ici non pas des charismes, mais de ce qu'on appelle les ministères. Donc ça, c'est important, on a une articulation qui permet de discerner déjà justement la distinction entre sacerdoce universel, on va y revenir dans quelques minutes, sacerdoce universel et sacerdoce particulier. Disons. Et donc c'est bien dit dans cette phrase-là, verset 6 du chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens, encore une distinction, vous voyez, il y a chez l'apôtre Paul beaucoup de distinctions très subtiles et très, très utiles. Apôtre dit, alors dans l'Épître aux Éphésiens, à propos de l'Esprit, de l'unique Esprit aussi, hein, ça c'est très important, la tradition chrétienne s'est beaucoup alimentée à l'enseignement de l'apôtre Paul, comme vous savez. Or l'apôtre Paul est vraiment le grand théologien de l'Esprit. Bon, je pense qu'on le dit, je parle probablement pas le premier à le dire, mais bien sûr que l'apôtre Paul parle du Christ, bien entendu, il est très... Là, on pourrait dire que l'enseignement de l'apôtre Paul est très christocentrique, on ne va pas dire le contraire, mais l'enseignement de l'apôtre Paul est également très pneumatocentrique. C'est lui le grand théologien de l'Esprit à l'orée de l'histoire de l'Église. Et donc, c'est il dit de l'Esprit, de cet unique Esprit, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et 12, c'est lui, c'est-à-dire l'Esprit, qui a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, à d'autres d'être évangélistes, pasteur, docteur, etc., pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alors cette phrase-là est extrêmement importante parce qu'on voit justement la distinction entre le corps ecclésial et le sacerdoce, on va dire, ministériel. C'est-à-dire cette distinction sur laquelle je reviens tout à l'heure en m'appuyant sur les développements donnés par le père Schmemann. En fait, il y a deux sacerdoces, il y a deux dimensions sacerdotales dans l'Église, ce que vous savez, permet de vous rappeler, une dimension sacerdotale qui relève du baptême, enfin, que tous ont par le baptême au sacerdoce unique du Christ, par l'Esprit Saint, et en même temps, dans ce sacerdoce unique, il s'exerce des ministères, et dont le but est, c'est très important, le perfectionnement des saints, l'édification du corps du Christ. Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a ici une définition, déjà, de la prêtrise fonctionnelle, si vous voulez, hein, de l'épiscopat, de la prêtrise, du diaconat, ce qu'on appelle les ministères, une définition qui est très intéressante, c'est-à-dire que ces ministères n'ont pas de but en eux-mêmes, comme des personnes qui seraient, gâtées ou supérieures aux autres, qui jouiraient d'une surabondance de grâce auxquelles les autres n'ont pas, mais ceux qui le reçoivent comme grâce et comme charisme tout de même du Saint-Esprit, c'est essentiellement pour constituer, pour développer, pour épanouir le sacerdoce général. Et que le but de l'Église, telle qu'elle est organisée, c'est de promouvoir en quelque sorte le sacerdoce de tous, et non pas de confisquer le sacerdoce au bénéfice d'une sorte de caste sacerdotale appelée prêtrise, appelée épiscopat, appeler ce comme on veut, disons, hein, mais donc c'était, et historiquement, le père Schmemann le montre avec beaucoup de perspicacité et de sévérité, d'ailleurs, historiquement, on a assisté à certaines confiscations de la dimension sacerdotale, et donc les fidèles qui sont débaptisés se sont vus privés de leur charisme sacerdotal, et l'ont même accepté dans leur conscience. Il est devenu entendu que dans l'Église, au fond, il y a deux dimensions, il y a des prêtres et puis des non-prêtres, qu'on appelle des laïcs, et le mot laïc prenant un sens très, très restrictif, hein, et on oublie que ces laïcs sont eux-mêmes prêtres. Alors, cette définition de l'apôtre, on voit que chez l'apôtre Paul, il y a cette antinomie du sacerdoce de tous et du sacerdoce, on va dire, ministériel, du sacerdoce fonctionnel. On voit qu'il y a cette antinomie, que c'est bien dit, et que ça apparaît tout le temps, il le redit dans un autre passage particulier, dans l'Épître aux Corinthiens toujours, au chapitre 12, verset 4, quand il dit « il y a diversité de dons, mais un seul et même esprit », donc on a bien cette articulation, et c'est cet esprit unique qui constitue le sacerdoce unique de tous, greffé sur le Christ par le saint baptême. Alors, dimension pneumatologique de l'assemblée ecclésiale, de l'assemblée du peuple de Dieu, elle a été annoncée, elle s'enracine dans le prophétisme. Ça, c'est très important, il faut toujours dire ça, que tout ce qu'on trouve dans la vie des baptisés, en fait, c'est le prolongement, c'est l'accomplissement, c'est la fructification de tout un donné prophétique que l'on connaît très très bien et dont les apôtres étaient bien conscients. Je renvoie ici au livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 18, qui est une page théologique exceptionnelle et qui montre bien que les chrétiens, nos pères, avaient un sens très très fort de l'unité du peuple de Dieu. Cette habitude qui s'est prise d'opposer Nouveau Testament, Ancien Testament, ou plus gravement d'opposer Église à Israël, ou éventuellement de dire que l'Église est substituée à un Israël qui a fini son travail, cette manière de voir là n'est pas la seule et n'est pas la manière la plus traditionnelle de dire les choses. Les anciens, les apôtres, et le Christ lui-même d'ailleurs, eux, en fait, avaient enseigné une continuité du peuple de Dieu. Quand le Christ dit « Scrutez les Écritures et elles rendent témoignage de moi », ce n'est pas pour s'opposer. Et il n'oppose pas un Nouveau Testament à un Ancien Testament. Il montre que la tradition biblique est une et qu'elle fleurit dans sa personne. Alors voilà ce que dit donc dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Et ça c'est très très beau, c'est un des grands. Vous savez que dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs discours théologiques. Il y en a qui sont attribués à l'apôtre Pierre, il y en a un qui est très beau, qui est attribué au premier martyr, l'archidiacre Étienne. Mais ces discours théologiques des Actes des Apôtres, il faut vraiment les étudier de très très près, parce que justement ils montrent ce que ça peut être que la théologie chrétienne, dans sa continuité avec toute la tradition prophétique. « Hommes de Judée, nous ne sommes pas ivres, comme vous le supposez. » Donc c'est-à-dire que l'apôtre Pierre est bien conscient qu'il donne l'impression aux personnes extérieures, il donne l'impression d'enthousiasme, d'ivresse, sinon d'ébriété, en tout cas d'ivresse. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'apôtre Pierre est tout à fait conscient qu'il est lui et les siens, le groupe qu'il forme, qui constitue une manifestation du Saint-Esprit. C'est assez étonnant de penser que les premiers chrétiens avaient cette conscience pneumatologique beaucoup plus que nous l'avons, parce que l'Église et la tradition, la théologie, l'évolution de l'enseignement dans l'Église a beaucoup mis l'accent sur la christologie, ce qui est bien, mais on a quelquefois perdu cette conscience pneumatologique et de l'Église et de la liturgie. Mais ici, l'apôtre Pierre, là, quand il dit ceci, c'est bien qu'il en ait pénétré. Il voit dans les yeux des gens ou il lit dans les pensées des gens ce que ces personnes-là pensent. Nous ne sommes pas ivres, comme vous le supposez. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, l'apôtre Pierre discerne l'effet qu'il produit, enfin, qu'ils produisent, lui et les siens, cette communauté inspirée, cette communauté créatrice, cette communauté géniale des premiers chrétiens, et qui dans son génie inspiré, son génie prophétique, son génie royal, son génie sacerdotal, impressionnait les contemporains, au point d'être mal compris d'ailleurs, puisqu'ici il y a un malentendu éventuel quand même, hein. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Et voilà, il cite ici le prophète Joël, si je ne me trompe, qui est très intéressant, parce que on voit justement que l'esprit prophétique a annoncé que la communauté chrétienne, la communauté sacerdotale chrétienne, serait une communauté pneumato-centrique, que l'Église serait gouvernée par l'Esprit, que l'Église est l'Église de l'Esprit. Elle est l'Église du Christ, elle est l'Église du Père, elle est l'Église du Père, du Fils et du Saint-Esprit tout de même, mais elle est l'Église de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Église est une manifestation de l'Esprit, et elle l'est particulièrement quand elle célèbre, quand elle offre les oblations ineffables qui nous ont été léguées par la tradition venant du Christ et en amont du Christ venant des prophètes et de la loi. Quand elle fait cela, l'Église est une manifestation du Saint-Esprit, est une pneumatophanie. Voyez. Alors qu'est-ce que dit le prophète Joël ? Il se fera, ça c'est Joël chapitre 2, versets 28 à 29 je crois, c'est cité ici, « Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, leurs fils et leurs filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes, et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit, et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, ce qui est important, c'est le caractère universel de ce déversement de l'esprit sur les hommes et sur les femmes. Donc, s'il s'agit bien d'une communauté universelle, c'est bien cette église-là dont parle l'apôtre Paul, où il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, etc., mais tous sont un dans le Seigneur. Et également, ce qui est important, c'est justement qu'on a ici la distinction de l'esprit et de ses dons, puisque le prophète Joël ne parle pas de la venue du Saint-Esprit en personne, mais il parle de la venue des dons. Je répandrai de mon esprit. De mon esprit. C'est-à-dire qu'il annonce ici la manifestation des charismes de l'esprit, mais il n'annonce pas la présence du Saint-Esprit en personne. Et l'apôtre Pierre continue, et après ça, il cite le prophète David, parlant du Christ. Mais bon, je cite ceci pour souligner le fait que quand les théologiens de la liturgie à notre époque insistent, par exemple Père Schmemann, Père Nicolas Panassiev, pour prendre ces deux personnes-là, insistent sur la dimension pneumatologique de l'Église et de la vie liturgique, ce n'est pas une innovation, ce n'est pas du modernisme, c'est pas une influence de je ne sais pas quel mouvement nouveau, c'est pas du pentecôtisme, c'est la conscience même que les premiers chrétiens avaient de l'Église qui émerge à nouveau. Et donc ceci est très important, ça veut dire que la divine liturgie, elle est célébrée, elle est officiée par un peuple qui n'est pas n'importe quel peuple, hein, qui n'est pas seulement des gens pieux, des gens religieux, bien sûr, mais c'est plus que ça, la liturgie est célébrée par un peuple convoqué par l'Esprit, habité par l'Esprit, vivifié par l'Esprit et inspiré par l'Esprit. C'est ça que nous devons voir dans nos églises. Ça, vous voyez, c'est l'année dernière, je crois que j'ai eu l'occasion de présenter le typicon de l'Église, mais c'est vrai que c'est très important, la précision du geste, du rite. J'ai parlé de ça, c'est un élément d'unité de l'Église, ça permet de célébrer ensemble, c'est un respect de la tradition, tout ça est très très bien, mais tout ceci doit être habité par l'Esprit, et si ce n'est pas habité par l'Esprit, ça devient vide, ça devient un espace sans contenu, même si cet espace est sain. Et imaginez une église vide, ça reste une église, mais il n'y a personne dedans. Et de même, les rites liturgiques peuvent être perçus, en tout cas, comme vides. Je me rappelle quand même, ça m'avait quand même beaucoup frappé, ça, d'avoir parlé un jour avec des fidèles roumains qui se présentaient à l'église et qui ne venaient pas bien souvent. Je leur ai dit, parce que forcément, on pousse sur la question, on aimerait beaucoup que le peuple de Dieu soit assidu, quand même, ça paraît pas une exigence extraordinaire. C'est avec la conception que nous avons de l'Église, du peuple sacerdotal de Dieu, etc., d'une certaine façon, il serait normal que les chrétiens soient assidus, présents, ponctuels, dans la vie liturgique, et que, par exemple, ce nombre extraordinaire d'orthodoxes qui est en France se retrouve dans des assemblées ecclésiales de manière régulière. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque, comme nous savons en faisant un comptage un peu rapide peut-être, nous savons que la majorité des orthodoxes qui sont sur le sol de France sont absents des réunions liturgiques. Donc j'avais posé cette question à ces amis roumains, ces fidèles roumains très, très sympathiques, j'aurais dit, mais c'est bien, on vous voit aujourd'hui, on est content de vous voir aujourd'hui, mais venez participer à la vie de l'Église, etc. Enfin, tout ce qu'on dit toujours, n'arrêtons pas de dire cela. Et ils m'ont dit oui, pourquoi pas. Après, ils m'ont répondu très poliment, très, très gentiment. Alors j'ai insisté un petit peu, j'ai dit, mais venez, c'est quand même intéressant, c'est ce qui te passe. Et ils m'ont dit, oui, peut-être, pour nous, pour nous, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont des rites totalement vides de toute signification. Ils m'ont dit ça quand même. Vous voyez, des orthodoxes de naissance, des orthodoxes un petit peu privilégiés, c'était des médecins roumains vivant en France, etc. Ils m'ont dit que pour eux, enfin, c'était que ces personnes-là, peut-être deux personnes sur 1000, non, ils m'ont quand même dit ça, ils m'ont dit pour nous ce sont des rites privés de sens, c'est totalement vide. Et nous venons ici simplement parce que c'est en roumain, et que nous allons retrouver des amis de la communauté roumaine, et que ça nous rapproche du pays, on est très très contents, et on est très contents de venir pour cette raison-là. Mais ne nous demandez pas si ça a pour nous un sens, ça n'en a aucun. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quand même la possibilité pour un être humain quand même évoluer, des bonnes personnes, des bons orthodoxes, des gens baptisés orthodoxes, hein, quand même. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas été beaucoup à l'église dans leur pays, je n'en sais rien, je ne leur ai pas posé la question, mais la possibilité pour l'être humain, et j'ai des amis comme ça, et nous avons certainement tous des amis de ce genre-là, déjà des amis qui sont des orthodoxes de naissance, des orthodoxes sociologiques, baptisés, etc., enregistrés dans les certificats de baptême de leur paroisse, et pour qui ce qui se passe à l'église, c'est totalement vide. Il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a personne. C'est vide, mais comme c'est beau, ça chante bien, et donc esthétiquement, c'est quand même assez satisfaisant. Donc on vient un petit peu de temps en temps, pas très 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 souvent, mais un petit peu. Mais pourquoi venir davantage, puisqu'il ne se passe rien, vous voyez ? Donc ça, c'est très très important. Moi, je dis cette constatation, pour moi, elle est fondamentale, parce que c'est vraiment l'enjeu. C'est ça le véritable enjeu de nos célébrations. Vous voyez ? Le véritable enjeu, c'est qu'on perçoive ou qu'on ne perçoive pas la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est justement celui qui remplit, qui donne le sentiment de plénitude, qui occupe l'espace, qui gonfle l'espace. Hein, c'est pensez à l'image d'un ballon, ces ballons que les enfants aiment bien gonfler de leur petite bouche. Voilà, un ballon, c'est tout plat, c'est le même ballon, hein, c'est le même ballon. Mais quand il n'est pas gonflé, il est tout plat, il peut se ranger dans une poche, et quand on souffle à l'intérieur, il devient immense, plus grosse même que la tête de la personne qui souffle. Bien, le mystère de l'Église, c'est le même. Le mystère de la liturgie, c'est le même. Oui, la liturgie peut être plate. L'Église, c'est peut-être un milieu complètement plat, moral, rituel, idéologique, nationaliste, enfin bon, tout ça, mais plat. Et l'Église, ça peut être aussi un milieu insufflé, un milieu gonflé, si vous me permettez l'expression, un milieu débordant et un milieu plein, 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 plein à ras-bord. L'Église pourrait être plus souvent, et nos liturgies, nos célébrations peuvent être plus souvent aussi, disons-le, des célébrations gonflées, débordantes, de la grâce du Saint-Esprit, fervente, hein, fervente, débordante, hein, ruisselante, irradiante. Et c'est-à-dire pour être justement l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël et d'autres d'ailleurs, hein, parce que c'est pas le prophète Joël n'a pas le monopole de cette prophétie. Vous savez très très bien qu'on trouve des semblables annonces chez d'autres prophètes, Isaïe ou autres par exemple, on annonce justement la manifestation du Saint-Esprit, le partage des dons de l'Esprit dans la communauté. Pensez aux lectures qui sont faites aux vigiles de la fête de la Pentecôte. Des lectures magnifiques et qui annoncent justement la même réalité, la constitution d'un peuple spirituel, sans annoncer encore la venue de l'Esprit-Saint en personne. Ils annoncent le partage des dons du Saint-Esprit. Donc voilà ce qu'est l'Église, voilà ce qu'est la liturgie. Quand on parle de sacerdoce royal, on parle d'une assemblée liturgique qui est donc pas seulement convoquée par l'Esprit Saint, pas seulement constituée par l'Esprit Saint de manière institutionnelle, ce qui est le cas aussi, ce qui est vrai. Tout est vrai, vous comprenez, mais à des degrés différents, ou à des registres différents. Mais donc une assemblée inspirée par le Saint-Esprit, vivifiée par le Saint-Esprit, celui qui justement vivifie tout, rend tout vivant, fait vivre. Et c'est bien cela, parce qu'au fond, nous ne reviendrions pas à l'Église si nous n'y goûtions pas justement cette plénitude, cette présence, cette beauté, cette douceur, ce charme des paroles de la parole de Dieu, cette profondeur, ce mystère, tout à fait extraordinaire. Il y a quand même une réalité qui nous attire, et c'est bien cette présence du Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui attire les hommes au Christ. Quand le Christ dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, c'est vrai. Mais il les attire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un petit peu comme dans, vous savez, ces troupeaux de moutons, où il y a le berger, il y a les moutons, et il y a le chien de berger. Alors le Christ est le berger, les moutons c'est nous, et qui est le chien de berger? Eh bien, c'est justement l'Esprit Saint, celui qui pousse constamment les brebis dans la direction que le pasteur leur indique, et celui qui les rattrape, qui va les chercher, et qui coopère. Hein, l'Esprit Saint joue un rôle très très important dans la constitution du peuple de Dieu, parce qu'il ramène continuellement sous le chef, sous la tête de ce peuple, il ramène constamment les brebis égarées, ou en tout cas il cherche à le faire, puisqu'il ne peut pas les forcer non plus. Voilà, alors cette réalité-là, si vous voulez, donc d'un peuple pneumatologique ou d'un peuple pneumatique, je me méfie du mot spirituel, c'est pour ça que je ne l'emploie pas, parce qu'en français, le mot spirituel a des sens ambigus, et il désigne souvent une réalité désincarnée, parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup à faire, si vous voulez, pour réinventer les mots, un peu tout réinventer, mais donc cette manière qu'on a souvent dans certains milieux intellectuels occidentaux d'opposer l'esprit à la matière, par exemple, c'est des manières de voir qui ne sont pas spécialement chrétiennes, un dualisme de fond qui traverse notre culture occidentale, et donc le mot esprit et l'adjectif spirituel prennent des sens pas très très intéressants, ça a quelque chose de désincarné, d'abstrait, de très très vivant, de très très pauvre, ou bien ça se rapporte à l'humour, à l'esprit voltairien, à l'esprit français, tout ce qu'on veut, c'est très bien, très gentil, mais enfin, il y a quelque chose de léger, et de léger, de superficiel, et qui n'a aucun rapport avec la vie de l'esprit, laquelle elle est peut-être légère, mais elle n'est pas superficielle. Elle est légère et profonde, légère et pleine, légère et riche, 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 infiniment riche, puisque l'esprit est celui qu'on appelle également le trésor des dons. Hein, il n'est pas seulement là, celui qui remplit tout, mais il est c'est une richesse, la richesse, la richesse du Saint-Esprit dont parle justement l'apôtre Paul. Alors, cette réalité qui est la nôtre, en fait, tout de même, moi, je suis en train ici de parler de ce, normalement, je devrais parler de ce que nous connaissons. Ce dont je parle ici, mais c'est nous. C'est nous. C'est nous, ce peuple prophétique. C'est nous, ce peuple royal. C'est nous, ce peuple sacerdotal. Je ne parle pas d'autre, de quelqu'un d'autre, quand même. Mais peut-être que je me pose la question de savoir si c'est toujours vrai, si c'est toujours réel, si c'est toujours palpable, si c'est toujours spectaculaire. L'image que, par exemple, l'Église et la vie liturgique de l'Église donnent à l'extérieur, par exemple dans les médias, est toujours aussi exacte, hein, vous voyez, correspond exactement à sa nature. C'est pas toujours le cas. Je citerai quand même un exemple. C'est un peu personnel, je vais l'arranger à ma manière. Donc, de personnes, que je ne nommerai pas, des personnes qui sont décédées maintenant, des personnes qui étaient tout à fait, peut-être pas athées, si vous voulez, mais sceptiques, genre intellectuels français sceptiques, intéressés par la religion, pas beaucoup, par la rigueur comme phénomène culturel, et avec un préjugé assez négatif à l'égard de l'orthodoxie, les orthodoxes étant considérés comme des barbus mal lavés, des gens très sous-développés, des gens pas très intelligents, des moujiks, enfin, je sais pas, ouais, donc mais les personnes à lesquelles je fais allusion ici ne connaissaient rien à l'orthodoxie, mais le peu qu'ils en avaient était essentiellement un préjugé assez négatif, et donc ils n'avaient jamais été dans une église orthodoxe, ils n'avaient jamais assisté tout ça, ça ne les intéressait pas vraiment, enfin, bon. Et puis, il s'est trouvé que nous avons eu une très très belle célébration qui a été l'ordination épiscopale, la chirotonie épiscopale de notre archevêque, le métropolite Joseph. qui a été un événement tout à fait exceptionnel, dont on pourra parler dans d'autres circonstances, mais et qui a été probablement, justement, une manifestation spectaculaire de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Et les personnes dont je parle, c'est donc ces sceptiques, ces Français sceptiques et intellectuels et pas très intéressés par la religion, ont regardé la télévision. Parce que, comme ils avaient des amis orthodoxes, qui leur ont dit, mais regardez la télévision, il y a une émission qui est intéressante. Bon, ils ont regardé et ils ont été saisis. Je ne me dis pas qu'ils sont devenus orthodoxes la semaine suivante, je n'en sais rien d'ailleurs, mais ils ont été saisis. Ils ont été saisis et ils ont dit quand même ça, ils ont dit, ah ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Je me rappelle aussi la même remarque faite par des noms des amis athées ou agnostiques, assistant à un très très bel office des défunts, et en sortant de là, disant, on n'a jamais vu ça. Oui, et ça c'est très très beau, ça, parce que ce type de remarque atteste que la personne qui n'est pas du tout dans le bain, si je peux dire, qui est un regard étranger, une oreille étrangère, une personne de bonne volonté quand même, bien disposée, si vous voulez, mais sans engagement du tout à l'égard de la foi ni chrétienne ni orthodoxe, je pense que ces exemples-là, est capable de dire ça, est capable de dire, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, on ne l'avait jamais vu. On a aperçu, on a vu une lumière, on a été saisi par une réalité qui nous dépasse et qui est totalement inconnue et neuve, nouvelle. Et donc c'est ça que je veux dire. Je veux dire que l'Église, la liturgie de l'Église pourrait être, et est quand même, tu vois, mes exemples que je donne sont des exemples réels, est le buisson ardent en fait. On pourrait dire que le buisson ardent dans le désert, que vit Moïse, c'est une figure, on sait très bien que c'est un symbole de la mère de Dieu, etc. Mais c'est un symbole de l'Église, c'est un symbole de la liturgie de l'Église. Et c'est cette espèce de manifestation saisissante d'une réalité complètement neuve. Et une manifestation lumineuse, une manifestation rayonnante, dégageant de la chaleur, dégageant de la lumière et dégageant du sens. Habité par une parole, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce buisson ardent tout de même. Si on dit que c'est pas l'icône, mais une image de l'Église et de son culte, ça va loin. Imaginez que c'est ça l'Église, une ardeur, une chaleur, une luminosité habitée par un sens et une parole et par quelqu'un. Qui dit je, quelqu'un qui parle. C'est ça l'Église, c'est ça la liturgie. C'est ça la liturgie, vous voyez. Donc, alors, ceci a été très, très bien expliqué par d'autres personnes beaucoup mieux préparées que moi. Et moi, j'ai parmi les théologiens de la liturgie que j'utilise, principalement deux, j'en ai déjà parlé, je vous l'ai donné en bibliographie. L'un, c'est le père Nicolas Afanassiev, dans son livre qui s'appelle « L'Église du Saint-Esprit », j'ai déjà parlé de ça, qui a été publié en 1975, et l'autre, que j'ai moins cité, mais que je devrais citer plus souvent, enfin, je crois que j'ai oublié de le mettre dans la bibliographie, pardon, et qui est pourtant très très important pour moi, qui est le livre du père Alexandre Schmemann, qui s'appelle « D'eau et d'esprit ». Et d'une manière générale, je me réfère beaucoup aux travaux et aux réflexions du père Alexandre Schmemann, que je trouve très, très juste, très, très courageux dans ses positions, et très rénovateur. C'est vraiment un artisan du renouveau de la tradition dans l'Église orthodoxe. Alors, c'est pour ne prendre que père Afanassiev et père Schmemann aujourd'hui, je peux trouver des passages chez eux qui illustre ce que j'essaie de dire. Je voudrais dire qu'une autre fois, j'ai le projet dans des cours ultérieurs de présenter un théologien orthodoxe que personne ne connaît, alors ça pour le coup, et qui est un théologien roumain qui s'appelle le père Liviu Stan et qui a écrit un livre justement qui se rapporte à notre sujet. Son livre s'appelle « Mirene in Biserica », c'est-à-dire « Les laïcs dans l'Église ». Et ça a été publié, tenez-vous bien, en 1939. 1939. Donc avant la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même des personnes qui, je le montrerai, développaient justement cette théologie du sacerdoce des baptisés. Et donc bien avant les pères Schmemann, bien avant le père Afanassiev, bien avant toute cette école de pensée théologique qui a fleuri autour de nous et qui a mis en avant quand même le sacerdoce des fidèles, bien avant, en 1939, le père Levi Houston a écrit un livre dans lequel il montre cela, il montre que les laïcs ne sont pas des non-prêtres, ne sont pas une race inférieure de chrétiens, mais qu'ils ont la plénitude de la vie en Christ par le Saint-Esprit. Alors, donc je me limite aujourd'hui à ces textes de Père Schmemann. Donc ça, c'est dans « Dos et d'esprit », c'est page 128. Mais là, j'en ai pour l'heure, parce que c'est tellement intéressant que je suis obligé de vous citer des passages importants de cet ouvrage. Dans le livre de Père Schmemann qui s'appelle « Dos et d'esprit », en fait, comme l'indique le titre, il parle du baptême, il parle de la chrismation, mais donc il parle de la constitution du peuple de Dieu par le Saint-Esprit. Et il dit justement que, ça revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, que la vie du Saint-Esprit dans l'Église n'est pas uniquement une vie réalisée par la présence de ses dons et de ses charismes, ce avec quoi nous sommes par ailleurs tout à fait d'accord, mais que la vie du Saint-Esprit dans l'Église, c'est sa vie en tant que personne, et que ce n'est pas... c'est pour ça que je vous ai cité ces paroles de l'apôtre Paul. L'Église ne nous présente pas seulement le champ des dons au pluriel, de la multiplicité des dons du Saint-Esprit. L'Église nous montre quelle est l'habitation du Saint-Esprit, de la personne même du Saint-Esprit. Elle est le lieu non pas seulement des dons du Saint-Esprit, mais du don du Saint-Esprit, comme le dit justement la prière de la chrismation, quand on dit le sceau du don du Saint-Esprit, hein, on l'emploie au singulier, on ne dit pas le sceau des dons ou des charismes du Saint-Esprit, vous voyez. Donc je reviens à cette distinction que j'ai annoncée tout à l'heure entre les dons et la personne même du Saint-Esprit. Voici ce que dit le père Alexandre: le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit comme don, page 128. Sommes-nous capables de comprendre que la paradoxale réalité de cette Pentecôte personnelle est que nous recevons en don singulier celui que le Christ et le Christ seul possède de façon substantielle, le Saint-Esprit, répandu de tout temps par le Père sur son Fils et qui dans le Jourdain est descendu sur le Christ et sur lui seul, révélant le Christ comme loin, le Fils bien-aimé et le Sauveur. Sommes-nous capables de comprendre que nous recevons en don singulier l'Esprit qui appartient au Christ comme seul Esprit? Mais alors, c'est que dans cette onction pentecostale, le Saint-Esprit descend sur nous et demeure en nous en tant que don personnel du Christ, don venant de son Père, don de sa vie. Et nous recevons ce don personnel du propre esprit du Christ, non pas parce que nous appartenons au Christ par la foi et l'amour, mais parce que cette foi et cet amour nous ont fait désirer sa vie, nous ont fait désirer être en lui, et parce que le baptême, ayant été baptisé en Christ, nous avons revêtu le Christ. Le Christ est loin, et nous recevons son onction. Le Christ est le Fils, et nous sommes adoptés en tant que Fils. Le Christ a en lui l'esprit qui est sa vie, et nous obtenons de participer à sa vie. C'est page 129. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire, justement, c'est qu'il explique un peu... il donne une très belle citation de la liturgie selon Saint Basile, de l'anaphore de Saint Basile. Saint Basile qui dit, à propos de l'esprit de vérité, le don d'adoption, la promesse de l'héritage à venir, les prémices des biens éternels, la force vivifiante, la source de sanctification. Donc cette façon de parler du Saint-Esprit au singulier est très très importante, ça se rapporte à ce que je disais tout à l'heure, l'unique Esprit du Père habite, se manifeste et habite dans l'Église. Et c'est pour ça qu'il dit, page 130, en Christ, bien sûr, le don du Saint-Esprit vient à des personnes qui sont déjà en Christ. Donc, en fait, il veut montrer l'articulation entre baptême et chrismation. Hein. En Christ, temple véritable et unique, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le temple. Donc là aussi, vous serez sensible au fait que c'est le singulier qui est employé. De même que l'Église est un mot qui s'emploie au singulier. L'Église, alors on dit, oui, il y a les sept églises dont parle Saint Jean. Oui, mais la pluralité des églises ne contredit pas l'unité et l'unicité. C'est toujours l'unique Église de Jésus-Christ et de l'Esprit du Père qui réside à Corinthe, à Éphèse, à Rome, à Athènes. Oui. Donc il s'agit de l'unique Église du Christ qui se trouve à tel endroit. Mais ce ne sont pas plusieurs églises. D'ailleurs, dans les lettres adressées par les apôtres, ou après ça par Clément de Rome, ou des écrivains anciens, on dit toujours à l'Église du Christ, singulier, qui se trouve à tel endroit. Et même dans l'Apocalypse de Saint Jean, on trouve le même type d'expression. On parle au singulier pour désigner une multiplicité de lieux, peut-être, hein, mais sans diminuer l'unicité et l'unité de l'Église elle-même. Et il en est de même pour la liturgie. Il faut que nous fassions attention à cela, d'ailleurs. Parce que souvent, on voit dans des feuilles paroissiales, dans des calendriers liturgiques, on voit l'expression liturgie au pluriel. On dit, les liturgies du mois d'août, par exemple. Vous voyez, c'est ou liturgie au pluriel. Et ça, si vous voulez, ça n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr, on voit bien ce qu'on veut dire. Il s'agit des célébrations liturgiques. Donc, mais il faudrait employer dans notre langage, avec une certaine rigueur d'expression, une certaine rigueur de vocabulaire, faire extrêmement attention de ne pas employer divine liturgie au pluriel. Il n'y a pas des divines liturgies. De même qu'il n'y a pas des églises. Il y a une divine liturgie, mais qui est célébrée, effectivement, dans plusieurs endroits, à plusieurs époques, plusieurs dimanches par an et par mois, évidemment, mais c'est la divine liturgie, vous voyez. Et donc, c'est faire extrêmement attention, parce que dans la négligence verbale, apparaît aussi une détérioration du sens. Et donc, nous ne devons pas perdre le sens de l'unicité du culte chrétien et de l'unicité de la liturgie, parce que c'est lié à l'unicité de l'Esprit, à l'unicité de l'Église elle-même, à l'unicité du Christ, à l'unicité de la foi, etc. Ce qu'on appelle le christianisme, c'est un mauvais mot, on devrait dire la culture biblique, la tradition biblique accomplie chez les baptisés, et la tradition biblique est une tradition de l'unique. Dieu unique, esprit unique, de l'unicité de l'homme aussi, on va y revenir, il y a une unicité anthropologique aussi qui est très très importante, que le Christ a pris en charge par son incarnation, et toutes les nations, c'était le grand message du premier évangile, de l'évangile des tout premiers temps, mais l'Église a eu cette affirmation de l'unité du genre humain, l'humanité unique. L'humanité est unique, comme Dieu est unique, hein, et comme l'Esprit est unique, hein, comme la foi est unique, etc. Voilà. Donc, ceci, donc, c'est donc lié, c'est pour ça que là que le langage est important. Vous voyez, quand on dit le don du Saint-Esprit, il s'agit du même don, du don unique et singulier qui est fait dans chaque cas, mais qui veut dire que chaque célébration de la chrismation est un événement de Pentecôte personnel et total pour la personne en question. Alors, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que si nous avons conscience de cela, c'est toujours pareil. Moi, je me dis qu'on pourrait célébrer autrement, qu'on peut célébrer de manière plus vivante, de manière plus rayonnante, plus irradiante. J'ai vu des personnes célébrer vraiment de manière magnifique, mais si on ne le sait pas, si on ne connaît pas le sens des choses, on ne pense pas à faire un changement quelconque, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut quand même enseigner ce qu'est, par exemple, l'Église, ce qu'est la liturgie, ce qu'est la présence du don du Saint-Esprit. Cet enseignement amène à une conscience plus profonde, une conscience renouvelée, et permet de faire même le moindre geste liturgique avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de ferveur. Bon, donc vous voyez, alors après ça je reprends dans le Père Schmemann, oui, il dit, mais c'est quand même extraordinaire, il s'agit de nous-mêmes, c'est de nous dont nous parlons ici. Oui. Et donc, en Christ, temple véritable et unique, nous devenons le temple du Saint-Esprit, oui, singulier. En Christ, qui est roi, prêtre et prophète, nous sommes faits roi, prêtre et prophète. Et nous possédons, comme l'a dit Saint-Jean Chrysostome, nous possédons abondamment, non pas l'une ou l'autre, mais toutes ces trois dignités. Alors, et il conclut ce passage et en disant ceci, il dit, ce que nous devons faire, c'est retrouver dans toute la mesure du possible la signification réelle de ces trois dimensions essentielles de l'authentique spiritualité chrétienne, les dimensions royales, sacerdotales et prophétiques. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est peut-être plus la dimension sacerdotale, parce que nous parlons de la liturgie. Mais, comme on peut le dire, comme le dit le Père Alexandre, en fait, le sacerdoce est exercé par des rois et il est exercé par des prophètes. Donc, le prophétisme, c'est-à-dire la vision de Dieu et la connaissance des desseins de Dieu, il se manifeste quand même dans le culte, principalement. Et la royauté, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir sans pouvoir de l'amour de Dieu, il se manifeste également aussi dans la vie sacerdotale. Donc, on fait une distinction dans ces trois dignités du Christ, mais cette distinction est un peu artificielle. Il s'agit en fait plus d'une triple dignité que de trois dignités. Alors, je passe justement beaucoup plus loin. Il a un chapitre qui développe justement ce thème de la royauté du Christ, qui est très, très intéressant, très très beau. Mais je passe directement à ce qu'il dit du sacerdoce, c'est-à-dire la prêtrise du Christ. Et il dit quelque chose qui est très important. Il dit qu'on ne peut pas comprendre le sens des ministères dans l'Église, épiscopat, prêtrise et diaconat, si on ne commence pas par redécouvrir la dimension sacerdotale du peuple des baptisés. Donc parce qu'il dit on a dans le passé, un passé récent, on a opposé, on a opéré une opposition entre donc le sacerdoce, la hiérarchie sacerdotale de l'Église, et des laïcs considérés comme non sacerdotaux. Vous voyez, il l'a dit page 147. Il y a une dichotomie d'autrefois opposant le clergé et les laïcs et mettant l'accent sur la nature non sacerdotale de ceux qui sont appelés laïcs. Or, vous savez très bien que le terme laïcos vient de laos, et donc en réalité, à l'origine, ce terme désigne ceux qui sont vraiment membres du peuple de Dieu, non pas une race inférieure, comme dit Zelher, mais une race royale. Parce que dans l'Antiquité, tout le monde n'était pas membre du laos, les étrangers, les esclaves, ne faisait absolument pas partie de ce Laos. Le mot Laos avait un sens très 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 positif dans l'Antiquité grecque. Voilà. Donc, il stigmatise, vous voyez, le fait que la prêtrise institutionnelle a exclu, parce que c'est arrivé, on l'a constaté, et c'est encore vrai dans certains milieux quand même, exclu le caractère sacerdotal de tous les chrétiens en tant que chrétiens. Ou bien le caractère sacerdotal des laïcs, et en fait de toute l'Église, définie par l'apôtre comme le sacerdoce royal. Alors c'est vrai que je dirais qu'il y a une certaine complicité, il y a des endroits où on constate que les laïcs sont tout à fait d'accord en fait avec cette dichotomie, parce que ça justifie leur non-engagement, ça justifie leur non-assiduité, ça justifie leur manque de présence, tout simplement. Et quand on parle avec eux, on se rend compte qu'en fait, pour eux, l'Église, c'est l'affaire des prêtres, et que donc, ils sont là en plus, mais qu'ils n'ont pas une présence, je peux dire, indispensable. Et pourtant, la tradition est claire, celle qui est interdit à un prêtre de célébrer la liturgie seul, quand même. Il va y avoir au moins un témoin, au moins quelqu'un du peuple de Dieu. Enfin, ça s'est estompé quand même dans la conscience chrétienne. C'est pour ça que les travaux qui sont faits plus récemment, donc, mais déjà chez Père Levi Ustan en 1939, et à plus forte raison chez des théologiens plus proches, sont des travaux extrêmement importants, c'est parce qu'ils restaurent la vision juste de l'Église et de la liturgie. Et il dit ceci, par exemple, page 148, « En ce qui concerne l'Église ancienne, elle était fermement convaincue, elle a toujours affirmé que tant la prêtrise institutionnelle dans l'Église que le sacerdoce royal de l'Église étaient les deux dimensions essentielles et complémentaires de sa vie même. Essentielles parce que résultant de son expérience du Christ et de son unique sacerdoce, complémentaires parce que révélant dans leur interdépendance la place et l'importance de ces deux dimensions dans la vie et l'action de l'Église. » C'est vrai que quand on regarde même rapidement certains passages de l'Évangile, on voit très bien que ces deux dimensions existaient. Ne serait-ce que dans l'articulation, par exemple, de ce qu'on appelle le collège des apôtres, les 12, et le nombre des 70. Donc on voit très bien qu'il y a dès le début, autour du Christ, sous la tête du Christ et présidé par le Christ, un sacerdoce qui est double, qui n'est plus antinomique en quelque sorte, vous voyez. Alors après ça, donc là-dessus, donc il essaie de il revient sur la dimension sacerdotale du Christ, qui rapporte à son humanité. Il dit c'est l'humanité du Christ qui a ce caractère, parce que c'est le Christ, c'est le nouvel Adam. Donc en fait, on trouve chez lui ce qui est l'attribut en quelque sorte de l'humanité première. Voilà, donc après une mini-pause, je reprends ce que j'étais en train de commencer. Et donc cette définition de l'Église comme sacerdoce, mais en partant du sacerdoce du Christ, parce que c'est le baptême agrège les hommes et les femmes au sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce universel du Christ, c'est ça dont nous parlons. Alors et après ça, dans ce sacerdoce unique du Christ, il va y avoir des ministères qui vont apparaître. C'est un point numéro 2, disons. Donc, voilà, donc il dit que la nature de l'homme a une dimension sacerdotale. Et après ça, il pose la question, que signifie pour l'homme le fait d'être prêtre? Eh bien voilà, le sacerdoce est le mode de vie des chrétiens. Et d'autre part, la prêtrise institutionnelle, entre guillemets, est la forme essentielle que prend l'Église, et l'Église comme service. Mais donc, vous voyez, c'est intéressant, ces deux dimensions qu'on retrouve justement dans la célébration liturgique. Je suis obligé de parler de tout ça, parce que c'est la base même de la célébration liturgique. Cette célébration est l'œuvre des deux sacerdoces conjugués. Enfin, ce ne sont pas vraiment deux sacerdoces, du sacerdoce de tous, auquel tous appartiennent, parce que les prêtres et les évêques sont quand même baptisés. Je vous raconterai quelque chose après ça. Ce peuple qui se réunit, qui est le peuple de l'unique sacerdoce du Christ, il se réunit avec des ministres, avec des prêtres, avec des évêques, avec des diacres, hein, et il ne se réunit pas sans eux, enfin le moins possible, et en tout cas pas pour l'action fondamentale qu'est la déminitologie eucharistique. Le peuple ne se réunit pas sans les prêtres. Donc et les prêtres ne se réunissent pas sans le peuple. Il y a une dépendance, je ne sais pas si le mot dépendance est très intéressant, mais il y a une conjugaison, disons, c'est peut-être plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une conjugaison des deux modes sacerdotaux dans ce cas-là, vous voyez. Alors, quelle est la définition du sacrifice? Qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre? Ça revient à dire cela, vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le sacrifice, ça consiste à être le médiateur entre Dieu et la création, le sanctificateur de la vie par son inclusion dans la volonté et l'ordre divin. Plus bas, il dit que le mot sacrifice, qui est devenu synonyme, presque toujours synonyme d'expiation, était et est toujours l'expression essentielle du désir de l'homme de communier, de communier avec Dieu. L'expression de l'aspiration de la création à s'accomplir en Dieu. Et alors, il dit une chose très intéressante à la suite de ça. Il dit qu'en fait, c'est ça l'interprétation la plus intéressante qu'on peut donner de la chute. La chute de l'homme, la perte du paradis, c'est en fait le refus d'être prêtre. C'est-à-dire le fait de remplacer le comportement sacerdotal qui est sacrificiel, qui consiste à consacrer, à intercéder et à sanctifier, à le remplacer par un comportement de consommation. Il dit le après. Voilà, le premier consommateur a été Adam lui-même. Il a choisi de ne pas être prêtre du monde et de se comporter en consommateur, y trouver son aliment, l'utiliser et le dominer pour lui-même, en tirer profit, et non le consacrer, l'offrir en sacrifice à Dieu et en Dieu. Et le fruit le plus tragique de ce péché originel, donc il est clair, hein, donc la substitution d'un comportement de consommation à un comportement d'oblation, c'est aussi clair que ça, le fruit le plus tragique de ce péché originel est d'avoir transformé la religion elle-même en bien de consommation destiné à satisfaire des besoins religieux, à servir de parapluie spirituel et thérapeutique, et dans lequel les prêtres assument une fonction de fournisseur, et ce qui est très, malheureusement assez souvent le cas. Il y a quand même pas mal d'exemples paroissiaux où les prêtres peuvent avoir l'impression d'être là à distribuer des produits religieux plutôt que d'animer, de rassembler une célébration religieuse avec tous. Et assez souvent, effectivement, nous voyons bien que nos fidèles viennent à l'église, par exemple, très en retard, après l'évangile, après avoir communié, et pour, bénéficier d'un service religieux, une prière particulière, une prière pour la famille, pour l'enfant, pour la mère, pour ce qu'on veut, disons, mais complètement déconnecté de la célébration liturgique, et sans aucune conscience. On a vu, par exemple, une célébration, il n'y a pas si longtemps cette année, où à la fin de la débénédiction, pendant que les gens communiaient, arrivent des personnes qui tirent le prêtre par la manche pour lui demander une prière particulière. Le prêtre leur dit, écoutez, après la communion, on est en train de donner la communion, et les gens insistent quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Vous voyez, pour la transformation de l'Église en espace de distribution de produits religieux, ce n'est malheureusement pas une invention du père Alexandre. Il y a quand même et nous sommes là pour ça, nous avons ces cours pour cela aussi, à retrouver le sens communautaire, le sens ecclésial de la liturgie et le sens sacerdotal de la vie chrétienne universelle. Et alors donc il insiste beaucoup là-dessus, le père Alexandre, sur ce qu'il appelle le mode de vie, le sacerdoce royal en tant que mode de vie chrétienne, et il explique plus loin, page 150, que ce mode de vie consiste à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, à faire de toute notre vie un culte spirituel, c'est encore dans l'Épître aux Romains chapitre 12, une offrande, un sacrifice, une communion. Mais alors, l'Église est donc aussi forcément sacerdotale dans sa totalité. Elle est sacerdotale par rapport à elle-même, elle est sacerdotale dans sa relation avec le monde. Et si cette offrande se situe au cœur même de l'Eucharistie, sacrement par lequel l'Église devient toujours ce qu'elle est, c'est parce qu'elle exprime et accomplit toute la vie de l'Église, l'essence même de la vocation de l'homme et du monde. Cette vocation, retenez bien ça, c'est quand même très très bien dit tout ça, cette vocation, toujours page 151, consiste à sanctifier et à transformer et nous-mêmes et nos vies, ainsi que le monde qui nous est offert. Donc ça, c'est ça la vocation des chrétiens, des baptisés, c'est ça l'activité liturgique. En fait, la vie liturgique fait cela tout le temps. Mais nous n'en sommes pas forcément conscients ou bien informés, c'est à découvrir ou à découvrir. Et le contenu, j'ai une très belle phrase aussi plus bas, dit que là, il s'agit de transformer notre vie en ce que le Saint-Esprit en a fait, c'est-à-dire, citation, une liturgie. Et qu'est-ce qu'une liturgie ? C'est un service à Dieu et communion avec lui. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. D'ailleurs, moi, je dirais que c'est un service à Dieu, c'est vrai, mais c'est également dans la liturgie que le service, que le commandement initial s'accomplit, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. La liturgie dans sa, dans son caractère inclusif, donc nomme les vivants, les défunts, les catéchumènes, les énergumènes, enfin tout ce qu'on veut. Donc elle a un caractère inclusif qui donne tout à fait sa place au prochain. Donc service à Dieu et communion avec lui et avec, on devrait dire ajouter, et avec le prochain. Et donc il dit que la base de ça, c'est l'amour sacrificiel, l'essence et le contenu ultime de la prêtrise de l'homme. Et je vous lis ces passages du livre de Père Alexandre Schmemann, parce que c'est vraiment important pour le sujet que j'essaie de présenter, c'est-à-dire le fait que l'Église et l'Assemblée liturgique que nous formons est constituée par le Saint-Esprit, et que donc finalement ce qui expliquerait, disons, cette réalité, c'est quand même le sacrement de l'onction chrismale. Or, la façon dont nous célébrons, quelquefois, n'est pas très claire. Je ne sais pas si vous assistez les uns et les autres à la célébration de ce qu'on appelle le baptême. Et alors, bon, c'est le baptême. Alors, bien sûr, le moment spectaculaire, c'est l'immersion. Tout le monde regarde, on prend des photos, on filme et tout pour envoyer ça à la famille. C'est très, très, très gentil. Et on pourrait s'abstenir de prendre des photos, on pourrait s'abstenir de filmer, on pourrait être dans l'action liturgique au lieu d'être transformé en spectateur, bon. Et après ça, il se passe l'onction du Saint-Esprit, mais ça passe presque inaperçu, parce qu'il y a un brouhaha dans l'Église, il y a des vêtements qui circulent, il y a des tas. Et ce sacrement qui est fondamental, qui est le don du Saint-Esprit, le don personnel, la Pentecôte personnelle du chrétien, souvent passe inaperçu. Interrogez autour de vous les chrétiens qui participent à la vie paroissiale, la plupart d'entre eux confondent l'onction des catéchumènes avec l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas eu de catéchèse, il n'y a pas eu d'enseignement, et parce que aussi la façon que nous avons de célébrer n'est pas éloquente. Il ne faut pas dire la phrase, le sceau du don du Saint-Esprit, il ne faut pas la dire quand il y a du bruit dans l'église, il faut attendre qu'il y ait un silence, tout le monde entende ça. Il faut que ce soit clair, c'est une phrase qui est minuscule, mais qui contient en fait la substance même de la vie ecclésiale et la substance même de la vie liturgique. Directement, Père Alexandre dit que c'est à partir de ça qu'on peut comprendre la prêtrise institutionnelle. La prêtrise institutionnelle, donc des évêques, prêtres et diacres, ne se comprend pas, en elle-même, hein, se comprend en tant qu'elle est issue du sacerdoce universel. Il le dit bien, ça, oui, il dit c'est seulement à la lumière de ce sacerdoce royal, donc issu du baptême et issu aussi de la chrismation, que nous recevons dans le sacrement du Saint-Esprit. C'est seulement à la lumière de ce sacerdoce royal que nous recevons dans le sacrement du Saint-Esprit. C'est que la phrase n'était pas très claire, il n'y a rien de dire que le sacerdoce royal est reçu dans le sacrement du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la chrismation. C'est la chrismation qui est le moment où nous est donné cet accès au sacerdoce royal. Ben oui, parce que c'est la chrismation qui nous rend membres actifs et personnels du Christ. Donc on peut dire que la chrismation est une ordination au sacerdoce du Christ. Du reste, c'est une parenthèse que je fais, mais pas qui a son intérêt, comme beaucoup de parenthèses, c'est que si vous êtes très observateur, vous avez certainement vu qu'il y a une ressemblance frappante entre la procession du baptismal, qui consiste à tourner trois fois autour, on dit autour du baptistère, bah oui, du baptistère si vous voulez, c'est vrai, mais autour de l'évangile. Si ça ne vous ennuie pas, on va dire quand même que c'est autour de l'évangile qui est à côté du baptistère. Et que cette procession, cette triple procession pendant laquelle on chante « Vous tous qui êtes baptisés en Christ », elle ressemble fortement à la procession de l'ordination qui a lieu autour de l'évangile également, dans le sanctuaire certes, avec des chants différents, mais c'est la même forme du rite, et c'est une forme qu'on retrouve également dans la consécration du mariage, avec la triple procession autour de l'Évangile. Donc il y a des formes liturgiques caractéristiques qui ont le même sens, qui ont le sens, un sens de consécration et un sens d'ordination à une prêtrise générale ou à une forme de prêtrise. Donc il veut dire ça, que c'est à partir du sacerdoce royal que l'on peut comprendre la signification réelle chrétienne et donc nouvelle de la prêtrise institutionnelle. La prêtrise de ceux que l'Église a dès le début, distingué et a ordonné dans l'indéfectible continuité des apôtres pour servir de prêtre, de pasteur et de maître. Car c'est justement pour que l'Église, tous ses membres, toute sa vie, ait un caractère sacerdotal, réponde à la vocation de sacerdoce royal que l'Église a besoin de prêtres. Alors, c'est très important. Ça rappelle c'est exactement ce que j'ai dit au début de ce cours, en citant la phrase de l'apôtre Paul, qui dit c'est l'Esprit qui a donné aux uns d'être apôtres, prophètes, etc., à d'autres d'être pasteurs, etc., pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps du Christ. Donc c'est bien dans la pensée de l'apôtre Paul que les formes ministérielles, on va dire, du sacerdoce sont au service du sacerdoce général, ce que redit ici Père Alexandre. Voilà, alors ces enseignements de Père Alexandre, on les retrouve à peu près dans les textes du Père Afanassiev, hein, et dans le texte que je vous ai promis, mais je n'ai pas le temps de le présenter ce soir, les textes du Père Liviustan. Il y a quand même une unanimité dans l'Église actuellement pour revaloriser cette dimension pneumatologique de la liturgie et de l'Église elle-même et la revaloriser à travers le mystère du sacerdoce de tous. Alors, ça a été fait beaucoup dans l'Église catholique. Il faut savoir que l'Église orthodoxe n'a pas tout à fait le monopole. C'est peut-être dans un sens un peu différent, si on veut, mais tout de même, la redécouverte du sacerdoce universel est une redécouverte qui s'est manifestée aussi dans l'Église catholique autour du Concile Vatican II. Pour parler très positivement, justement, un des apports vraiment importants du Concile Vatican II dans l'Église catholique romaine, c'est justement cela, la revalorisation, la remise à sa place, disons, du sacerdoce de tous les baptisés pour retrouver un équilibre entre sacerdoce ministériel et sacerdoce universel, ce que fait l'Église catholique. Elle tend vraiment, je pense, à cela. Alors, en milieu protestant, c'est un petit peu différent, parce que d'après ce que j'ai compris, d'après ce que dit justement Père Schmemann, on a effectivement une théologie du sacerdoce de tous, mais ça n'a pas du tout débouché sur une redécouverte des ministères. Et au contraire, on est souvent dans une situation un peu polémique, c'est-à-dire le sacerdoce royal est tellement important, tellement valorisé, qu'au fond, on n'a plus du tout la nécessité d'un ministère, d'une succession apostolique objective. Alors que la pensée orthodoxe, elle trouve que c'est très très clair, à la fois elle affirme le sacerdoce de tous, et elle affirme le caractère indispensable du sacerdoce, du ministère apostolique. C'est une question importante, par exemple, dans la pratique, puisque je m'adresse s'il y a des personnes qui ont une pratique paroissiale, dans la pratique, on a des expériences de paroisse hein, qui, quand le prêtre est absent, ferment, ne font absolument rien. À la rigueur, les personnes se réunissent à la maison pour dire chacun de son côté un acatisme, enfin, c'est tout. Et puis, on a une expérience inverse, hein, où, en l'absence de prêtre, les fidèles se réunissent et on a l'impression qu'ils prennent en quelque sorte en main la paroisse, que les prêtres sont devenus des fonctionnaires un peu subalternes dans la vie de la paroisse. Pas un autre excès, c'est assez rare quand même, mais ça peut On peut se trouver. Et puis, un exemple qui est très, très intéressant, qui est le fait que dans certaines paroisses, j'en suis le témoin, donc je peux en parler, certaines paroisses, c'est vrai que le prêtre étant absent, malade ou décédé, par exemple, les fidèles, avec cette conscience sacerdotale qui est la leur, ont les clés de l'église, se réunissent, disent un office de vêpres, disent un acatie, disent un, je sais pas quoi, un office de compli, de grande compli, c'est-à-dire assument quand même leurs compétences liturgiques, hein, ont cette conscience qu'ils sont, oui, qu'ils sont compétents liturgiquement, qui, c'est pas un droit, mais c'est parce qu'on n'est pas dans un frame de droit ou le permis ou l'interdit, les fidèles ont le droit, mais on parle pas de ça, ils ont le pouvoir, hein, ils ont le pouvoir charismatique et pneumatologique de se réunir, de se rassembler et de lire la parole, de lire les psaumes entre eux, et que ce n'est pas du tout une manifestation gauchiste ou démagogique ce qui se passe là, mais c'est simplement une responsabilité que les fidèles prennent, et qu'ils prennent à juste titre. Ce n'est pas une usurpation, ce n'est pas une concession non plus, c'est un exercice naturel de la fonction sacerdotale des baptisés. Vous voyez, et ce sens de la responsabilité liturgique s'est manifesté en particulier dans les pays de l'Est, en Russie à l'époque stalinienne par exemple, quand tous les prêtres, tous les évêques avaient été fusillés, et restaient les fidèles. Bon, les fidèles avaient la clé de l'église et se sont réunis pour maintenir la vie de la paroisse en attendant des jours meilleurs. Vous voyez. Parce que ce qui est important, parce que j'ai vu justement dans certaines régions de Russie, c'est que les fidèles qui se réunissaient de cette façon-là, ils étaient toujours en liaison avec un évêque ou un prêtre absent ou caché, avec lequel ils correspondaient. Donc ils n'ont jamais eu l'idée qu'ils se passaient de prêtre, vous voyez, qu'ils se passaient d'évêque. Ils ont eu l'idée qu'ils se réunissaient en tant que membres du peuple de Dieu, en étant en obéissance avec un éventuel évêque, en étant dans l'obéissance avec un père spirituel quelque part, avec la bénédiction de quelqu'un, vous voyez, donc il n'y avait aucune fracture dans l'unité ecclésiale à ce moment-là. Quand on valorise le sacerdoce de tous, ce n'est pas une attitude polémique, c'est pas une attitude de revancharde, mais ça permet aussi de situer les choses autrement. Par exemple, la discussion sur la place des femmes dans l'Église, eh bien, elle est abordée de manière beaucoup plus intéressante quand on part du sacerdoce universel. Parce que là, on n'est pas obligé, mais on est dans la situation de dire et de rappeler que femmes et hommes ont part également à égalité au sacerdoce du Christ. Il n'y a absolument aucune différence entre hommes et femmes en ce qui concerne le sacerdoce universel. Ah, évidemment, c'est un petit peu nouveau quelquefois à entendre, mais pourtant c'est le cas. En revanche, c'est vrai que la prêtrise institutionnelle est de caractère masculin, parce que c'est le caractère patriarcal, au fond, de la tradition biblique, mais que l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui coupe le pain, c'est lui qui partage le pain, c'est lui qui rassemble la famille, mais il rassemble une famille dans laquelle les personnes sont tout à fait à part entière membres. Comme le dit l'apôtre, je vous avais dit ça tout à l'heure, ah oui, le prophète Joël, vos fils et vos filles prophétiseront, vous voyez. Donc les prophètes de l'Ancien Testament avaient tout à fait cette conscience que le peuple de Dieu est un peuple dans lequel toutes les personnes sont dans la même dynamique spirituelle. Alors que nous dit le bon père, alors ici on change un peu d'auteur, le père Afanassiev, c'est donc l'église du Saint-Esprit, et page 66, hein. Alors justement, j'ai pris ce passage-là parce que c'est très intéressant, parce que lui, il coordonne nettement la participation à la grâce du Saint-Esprit, qui est le fait de tous les baptisés, parce que tous les baptisés quand même reçoivent l'onction du Saint-Crème de la même façon, à égalité, qu'ils soient hommes et femmes tout de même, bon, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, ou je ne sais pas quelle couleur, bon, mais que cette collation, pas seulement de la grâce du Saint-Esprit ou des énergies du Saint-Esprit, mais cette venue de la personne du Saint-Esprit dans leur vie, c'est-à-dire le fait qu'ils deviennent habitants de la personne du Saint-Esprit, que c'est une Pentecôte personnelle, a des conséquences justement liturgiques. Le père Nicolas Afanassiev il a, page 66, justement, des paroles très intéressantes. Il cite un extrait de la tradition apostolique qui dit ceci, il dit que après la chrismation, ils, c'est-à-dire ceux qui président, les proestotes, ils prient avec tout le peuple. Mais ils ne prient pas avec les fidèles avant d'avoir reçu tout cela. C'est-à-dire qu'il montre cette phrase-là, elle est sortie un peu de son contexte, mais je crois qu'il la cite parce qu'elle montre le fait que la célébration naît de la chrismation. Vous savez très bien, dire que dans l'état actuel des choses, quelqu'un qui aurait été baptisé mais qui n'aurait pas reçu l'onction du Saint-Crème n'est pas reçu à la communion. Donc ça, c'est pas parce qu'il est impur ou pas gentil ou qu'on ne l'aime pas ou c'est pas pour le pénaliser, mais simplement il n'est pas membre. Et c'est par la chrismation qu'il deviendrait membre du peuple sacerdotal et célébrant. Donc n'ayant pas reçu la chrismation, il n'est pas membre du peuple célébrant et donc il ne participe pas à l'Eucharistie. Ça c'est resté comme un signe quand même clair que dans la conscience de l'Église, on fait bien naître la célébration et la concélébration. On l'a fait bien naître de l'onction du Saint-Crème. Bon, après ça, il développe justement en parlant de cette assemblée eucharistique. Et il dit, c'est une citation donc de ma part ici, « La vie entière du croyant est culte. » Culte incessant de Dieu et son ministère spécial s'exerce dans l'assemblée eucharistique, par laquelle tout commence, dans laquelle tout s'achève et d'où dépend tout ministère dans l'Église. Vous voyez, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de revaloriser le lien entre l'Esprit Saint et la célébration. Il continue. C'est un peu la même idée, la participation du nouveau baptisé à l'assemblée eucharistique, c'est-à-dire à la célébration, en couronnant l'acte charismatique de sa réception au sein de l'Église, révèle la nature et le caractère du ministère en vue duquel est établi chaque membre de l'Église. dit plus loin, à l'époque de Saint Hippolyte de Rome, il dit que l'établissement du nouveau baptisé dans le ministère du sacerdoce royal avait lieu en vue de l'assemblée eucharistique. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est-à-dire que on dit pourquoi baptiser? Alors, la réponse pourquoi baptiser les enfants ou les grands, etc. La réponse c'est pour faire partie de l'Église. Bon. Alors, si c'est les enfants, c'est pour que s'ils meurent, il n'arrive pas de malheur. C'est une réponse qu'on entend malheureusement quelquefois. Mais on aimerait entendre la vraie réponse qui est on est baptisé et chrismé pour célébrer, pour participer à l'assemblée eucharistique, pas seulement pour communier individuellement, mais pour être des célébrants. Et c'est-à-dire que là, c'est très clair, quand même, dans la structure de la liturgie. Il y a quand même deux parties dans la liturgie, la liturgie des catéchumènes et la liturgie des fidèles. Et en principe, à la liturgie des fidèles participent ceux qui sont membres de l'Église, non seulement par la vraie foi, non seulement par le baptême, mais par l'onction du Saint-Crème. Parce que quelqu'un qui n'est pas ouin, n'est pas un célébrant et donc repart après. Quand on dit que les catéchumènes repartent, que les catéchumènes sortent, qu'aucun catéchumène ne reste, ce n'est pas une discrimination comme le pensent certains, mais c'est une façon d'indiquer que on est baptisé pour célébrer. Et que si on peut pas célébrer, c'est qu'on n'est pas baptisé, ou si on n'est pas célébré, c'est qu'on est d'une manière ou d'une autre en vacances de sa fonction sacerdotale, ou qu'on a perdu les caractères baptismal ou partiellement en tout cas, par exemple par l'hérésie. Si la confession de la foi est abîmée, eh bien le caractère sacerdotal de la personne est entamé Et donc, elle ne peut pas, tant qu'elle ne restaure pas sa foi, tant qu'elle ne donne pas l'attestation qu'elle confesse la foi de l'Église, elle ne peut pas participer à l'Assemblée Eucharistique. Mais donc, on ne vient pas à l'Église pour communier, on vient à l'Église pour célébrer. Vous voyez ? C'est ça qu'explique très bien Père Afanassiev, donc dans le même genre d'idée que Père Schmemann. Oui. Il dit, le sacerdoce royal des fidèles consiste en leur ministère commun. C'est très intéressant, vous voyez, ils ne sont pas des ministères individuels. C'est là justement la différence entre les charismes ou les dons et le don dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, donc j'ai insisté sur le fait qu'on emploie quelquefois le mot don au pluriel pour désigner les dons du Saint-Esprit, les charismes du Saint-Esprit, et qu'on emploie aussi l'expression singulier pour désigner l'unique Esprit, l'unicité de l'Esprit dans l'unique Église du Christ. Mais là aussi, le Père Afanassiev dit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il parle de ministère commun. Et le ministère commun n'est pas l'addition arithmétique des dons de chacun, mais elle est l'exercice de quelque chose qui est unique et qui est l'unique sacerdoce du Christ. La célébration... c'est pour ça que c'est très important d'être là à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ponctualité, pas seulement la solidité, mais la ponctualité, parce que finalement quand on va commencer, quand le prêtre ou l'évêque va dire « Bénis le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit » pour commencer la célébration, il le dit quand le peuple sacerdotal est constitué, quand l'assemblée sacerdotale est constituée, quand tous sont présents pour le ministère commun. D'une certaine façon, celui qui préside ne fait peut-être pas autre chose qu'exprimer, c'était ça la présidence, c'est d'exprimer l'unicité du ministère liturgique de tous. Mais il faut que quelqu'un l'exprime ça, et donc il faut un président, on l'appelle le président, le proestos dans l'Antiquité, c'est celui qui préside, ce n'est pas pour confisquer la dignité sacerdotale des autres, mais c'est pour en exprimer le caractère unique et un. Et c'est autre chose que les charismes personnels, que les dons personnels des uns et des autres. C'est autre chose. Il y a une distinction, ce que j'ai dit depuis le début de ce cours, il y a une distinction fondamentale entre les charismes et le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, l'unique don d'unique esprit, donc se manifeste dans l'unicité du corps sacerdotal qui officie ensemble, vous voyez. Il a des très belles expressions après. Il dit « Chaque fidèle se tient devant Dieu en tant que liturge. Le ministère commun des fidèles est celui du peuple de Dieu agissant comme un tout. » C'est une belle expression aussi. On pourrait dire « célébrant comme un seul homme », ce qui aurait un sens aussi, parce qu'en fait, oui, nous célébrons comme un seul homme, puisque nous célébrons en tant que membre du corps du Christ qui est sous sa tête, donc, c'est-à-dire comme un seul homme qui est le nouvel Adam. C'est le Christ qui célèbre finalement. C'est le Christ qui célèbre, nous sommes des membres du corps célébrant du Christ. C'est ça là, qui fait l'articulation, ce qu'on appelle le sacerdoce des fidèles, ce n'est pas autre chose que le sacerdoce du Christ en fait, mais exercé par les fidèles. Il en résulte qu'être dans l'Église, c'est être membre du peuple de Dieu et posséder le charisme du sacerdoce royal, non pour un ministère individuel, voilà, j'y reviens, c'est assez important, ça, vous voyez, mais afin de participer au ministère de l'Église. Et ça, c'est un ancien élément qu'il faut redire, répéter en catéchèse, dans les réunions de clergé, je ne sais pas, tout le temps, c'est que faut arriver à sortir des comportements très individuels, très individualistes, qui se manifestent dans nos églises, dans nos paroisses. Bon, c'est bien d'arriver un peu en retard, d'aller vénérer les icônes, mettre son cierge, de dire ses petites prières individuelles, mais attends, c'est la liturgie qu'on célèbre, donc tu arrives ici, tu t'intègres au corps sacerdotal, tu viens pour célébrer avec tous, tu viens pas pour accomplir des dévotions individuelles. Mais c'est vrai que la façon dont la liturgie est organisée quelquefois, souvent dans une langue incompréhensible, souvent avec des prières dites totalement à voix basse qui ne permettent pas aux fidèles de participer, fait que le fidèle de bonne volonté, il s'occupe pendant la liturgie. Il y en a qui disent leur chapelet, il y en a qui allument des cierges, il y en a qui sortent, qui rentrent. on n'a pas forcément l'impression d'une célébration commune. Bah, pas toujours. Hein. Alors c'est vrai que maintenant, justement, grâce à des théologiens comme ceux dont je parle ici, les pères Schmemann, les pères Afanassiev, le père Livy Ustan, et aussi des injonctions données par le Saint-Synode de l'Église roumaine, on voit des célébrations, c'est très très beau, on voit des célébrations liturgiques où vraiment tous participent, pas en fouillis, chacun à sa place en quelque sorte, mais vraiment d'une manière collégiale, d'une manière communautaire. J'ai eu le privilège de participer à la Sainte Liturgie il y a 15 jours en Terre Sainte, dans une paroisse arabe, paroisse orthodoxe arabe, et de participer à la liturgie. C'est vrai que c'était vraiment ce que j'essaie de valoriser ici, c'est-à-dire une célébration magnifique, pas magnifique pour des raisons esthétiques, mais magnifique parce que chacun y avait sa place, il y avait des chantres qui étaient très, très dynamiques et très, très actifs, mais il y avait une participation du peuple impressionnante et très juste. L'ensemble du peuple participait, donc célébrait vraiment, mais à bon escient. À bon escient, on avait bien les trois postes de la liturgie dont on a déjà parlé ici à propos de l'enseignement de Maxime Kovalevski, c'est-à-dire l'autel, le chantre, disons, et le peuple, ces trois postes s'articulaient très très bien et ça faisait vraiment un ensemble magnifique, magnifique, magnifique. Donc on peut faire ça, il peut y avoir des célébrations liturgiques qui sont tout à fait, fidèles, disons, à cette conscience ancienne qu'a eu l'Église d'un ministère, je voulais dire collectif, je ne sais pas si le mot est très juste, pourquoi pas, oui. Commun en tout cas, ministère commun. C'est pas seulement un ministère commun, c'est un ministère unique. C'est ça qui est intéressant. Quand on dit ministère commun, il faut se méfier, ça peut être considéré comme une sorte de rassemblement de personnes, d'individus. Bon. Alors, c'est pas ça la pensée de l'Église. La pensée de l'Église, c'est que c'est un unique. Quand on parle du ministère au singulier, le ministère de l'Église, le ministère unique de l'Église, le sacerdoce unique de l'Église, la liturgie de l'Église, le peuple de l'Église qui est l'Israël éternel de Dieu. Alors, justement, il s'appuie là-dessus, bien sûr, sur les textes de l'apôtre Paul, hein, le fameux texte de l'Épître aux Corinthiens que je crois que j'ai cité tout à l'heure. Oui, c'est ça, 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons été tous baptisés d'un même esprit pour former un même corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Hein, donc ça, c'est vraiment l'enseignement de l'apôtre Paul qu'on retrouve tout le temps sur l'unicité de l'esprit. Alors, après ça, il conclut ce passage, ce chapitre, ce qui est dans les pages 60, 65 et suivantes, qui s'appelle « Ministère des laïcs, ministère du peuple de Dieu ». Il conclut de manière justement qui est très équilibrée, parce qu'il dit « Oui, il ne s'ensuit pas que le ministère commun des fidèles, le ministère au singulier, exclut le ministère individuel, puisque le charisme commun du peuple de Dieu n'exclut point les charismes particuliers des différents membres de l'Église. » Donc c'est ce que je dis depuis le début du cours. Ce qu'on a devant les yeux, c'est l'articulation entre les dons et le don. Hein, mais c'est tout à fait compatible. Simplement, ça ne s'exerce pas au même moment. Je pense qu'est-ce qui se passe dans nos paroisses, par exemple. Tous les fidèles participent à la liturgie en même temps, ils exercent le sacerdoce commun, ça se passe très bien, et puis après cette célébration commune, on va voir que une personne va prendre les enfants, va faire le catéchisme, une autre personne va rentrer chez elle parce qu'elle a un atelier d'iconographie, elle a des icônes à peindre, un troisième va rendre visite à des malades, un autre va aller voir les prisonniers, un autre a un livre à écrire pour la catéchèse. Bon, donc les dons, la pluralité des dons du Saint-Esprit n'est absolument pas en contradiction, c'est autre chose, c'est un exercice alors sans personnel, avec une mission personnelle de chacun des membres du corps du Christ, mais ce n'est pas en contradiction. Il y a les deux, on affirme cette antinomie du singulier et du pluriel, le don et les dons. Bon, Alors, je crois que, en fait, j'ai été assez insistant sur tout cela. Qu'est-ce qui conclut ça? Bien sûr, c'est la définition de l'Église. Parce qu'à la fois, on parle de la liturgie, on parle de l'Église. Donc, c'est impossible. La liturgie, c'est la manifestation de l'Église. Et l'Église, se manifeste comme peuple sacerdotal, comme peuple qui célèbre principalement. Et c'est pour ça que on a beaucoup ces paroles de l'apôtre Paul, surtout, qui joue sur les mots. Le mot, en français, le mot église désigne à la fois la communauté des croyants et le bâtiment dans lequel cette communauté prie. On le sait très bien, donc c'est intéressant qu'il y ait ce jeu de mots continuel sur église avec majuscule ou église avec minuscule, qui désigne deux éléments. Mais parce qu'en fait, il s'agit de la même réalité. Quand l'apôtre Paul dit « l'Esprit de Dieu habite en vous », il s'agit bien de l'occupation d'un espace. Quand il dit « vous êtes le temple de Dieu », c'est bien la même chose. Et quand il dit « tout l'édifice s'élève jusqu'à former un temple saint dans le Seigneur », il compare bien l'assemblée des baptisés, il compare bien à une forme architecturale. Donc la théologie est très très claire, l'Église est un peuple de célébrants. On est là principalement pour ça. Bon, alors vous allez me dire dans d'autres cours, là c'est le cours de liturgie, alors je suis là forcément à dire que l'activité liturgique est l'activité principale de l'Église. Maintenant, si on avait à parler du sacrement du frère, je vous dirais peut-être que l'activité principale de l'Église, c'est de s'occuper des pauvres. Bon. Mais quand même, même le sacrement du frère, c'est ce qu'on appelle la liturgie après la liturgie. C'est un charisme justement qui découle du ministère commun de l'Église. Bon, effectivement, autre citation, c'est dans Éphésiens 2 et 21, c'était ça. « Tout l'édifice s'élève jusqu'à former un temple saint dans le Seigneur. Votre corps est le temple de l'Esprit, c'est 1 Corinthiens 6, 13, 20. Nous sommes le temple du vivant. » Enfin, donc ça c'est... Donc si vous avez compris ça, cette articulation entre le don et les dons, je n'ai pas perdu mon temps. Alors après ça, je vois, c'est page 123, je pense que c'est encore chez Père Apanassiev, 123, qu'il dit... Ah oui, c'est ça, page 123 et suivante, il traite des ministères particuliers. Alors ça nous intéresse un petit peu moins parce que disons que ça n'a pas de répercussion tellement sur la vie liturgique, sauf dans le cas où, dans le cadre de l'activité liturgique, il y aurait par exemple des formes d'enseignement. C'est vrai qu'actuellement, la prédication, c'est assuré par l'évêque, c'est assuré par le prêtre, mais on avait des cas où, quand on lit le journal d'Éthérie ou d'Égérie, on se rend compte qu'à l'époque ancienne de l'Église, la prédication était beaucoup plus développée, qu'il y avait quatre lectures, la loi, les prophètes, l'épître et l'évangile, et qu'après chaque lecture, quelqu'un prêchait. Donc il y avait de la place dans l'assemblée liturgique pour des manifestations, des dons du Saint-Esprit par les formes d'enseignement qui s'y trouvaient. C'est pour ça que dans Éphésiens 4, 11, 12, on a, c'est lui, l'Esprit Saint, qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Il pourrait y avoir, effectivement, dans le cadre de la vie liturgique, de l'action liturgique commune, au moment de la liturgie des catéchumènes, il pourrait y avoir, effectivement, des formes, plusieurs formes, disons, de charisme, peut-être, on n'exclut pas ça. Hein. Mais bon, donc tout ce passage-là est un petit peu moins intéressant. Parce qu'il parle des dons, vous voyez. Alors moi, mon sujet ce soir, en tout cas, c'est de parler de la liturgie. Alors, parce que même ce que je dis de la liturgie, c'est principalement la divine liturgie. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut employer ce mot, cette expression au singulier. C'est vrai également des autres formes liturgiques. Ce que nous avons étudié les autres années, on a étudié l'office de vêpres, l'office de matines, enfin les offices des petites heures, l'office des complis, je crois, je ne me souviens plus de tout ce que nous avons fait. Mais quand on prend les différentes formes liturgiques de l'Église, on retrouve la même structure. Même, je ne sais pas, en ce moment c'est la première semaine de carême, dans toutes les églises orthodoxes, pratiquement, à chaque fois où on le peut en tout cas, on a des offices de complis, avec le canon de Saint-André de Crèche, qu'on avait ici à la cathédrale ce soir. Alors, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la liturgie eucharistique qu'on parle autre chose. C'est exactement la même essence, exactement la même activité commune, sacerdoce commun qui s'y manifeste, présidé par le ministère fonctionnel. C'est toujours la même icône, en fait. C'est toujours la même icône de l'Église qu'on trouve dans quelle que soit la manifestation liturgique, oui. Même un très petit office, pas les petites heures, on retrouvait la même forme. C'est toujours le peuple de Dieu, ce peuple célébrant qui se manifeste, et ce peuple qui est célébrant parce que il est animé par le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça avait été dit déjà un peu, que la liturgie était principalement participation à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ce que dit très bien le Père Schmemann, c'est qu'en fait, quand on dit que la liturgie, c'est la participation au Christ, c'est le corps du Christ qui célèbre, c'est vrai, mais on participe à un Christ qui est rempli du Saint-Esprit, donc il est exclu que la liturgie puisse être, comment dire, avoir une dimension christologique, et qu'elle n'est pas simultanément une dimension pneumatologique. L'Esprit Saint auquel ont accès les célébrants, à ce qu'ils doivent avoir accès, c'est l'Esprit qui remplit le Christ lui-même. Bon, je ne sais pas si je reviens trop là-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis tous les baptisés membres du corps du Christ et nourris par son sang, officient en lui, avec lui et sous sa tête, comme il est rempli du Saint-Esprit, c'est ce que je disais à l'instant, tous communient à l'Esprit qui est en lui. Ils ont l'Esprit du Christ, non seulement en raison de la chrismation qu'ils ont reçue au Saint-Baptême, mais en tant que célébrants. Oui, ça, il faut le dire quand même. Ça, c'est que la célébration de la divine liturgie en particulier... on dit que c'est une communion, nous avons le sentiment que c'est une communion au Christ, parce qu'on communie au corps et au sang du Christ. Oui, on communie au corps et au sang du Christ qui sont sanctifiés, remplis, débordants du Saint-Esprit. Vous voyez, nous communions au Saint-Esprit, comme nous communions au corps et au sang du Christ. Mais oui, bien sûr. Là, il y a des signes, j'avais parlé de ça la dernière fois, je crois, les signes justement de la présence du Saint-Esprit dans l'action sacramentelle sont très nets, non seulement dans les mots mais dans les gestes, par exemple le rite du Zéon, je crois que j'en avais parlé, le rite du Zéon dans la célébration liturgique, est très très important parce que justement le signe que dans le calice, le Saint-Esprit comme ferveur, comme chaleur, etc. est présent quand nous communions parce que nous communions à des parcelles qui sont trempées dans le calice, et bien nous communions au Saint-Esprit. Nous ne communions jamais à un Christ qui serait séparé du Saint-Esprit. Ça ne voudrait rien dire du point de vue de la foi chrétienne. Puisque d'abord, ça voudrait dire qu'on coupe la Trinité en morceaux, tout complètement hérétique. On serait dans un trithéisme. Et puis ça voudrait dire qu'on n'a pas conscience du tout de ce qu'est l'incarnation. L'incarnation du Verbe, c'est une incarnation qui se fait par l'action du Saint-Esprit. Donc si on communie au Verbe incarné, on communie au Saint-Esprit par lequel il s'incarne. Oui, c'est incontournable. Le lien entre le Fils et l'Esprit est un lien qui est absolument indissociable. Et en même temps, ce n'est pas une confusion. On est bien d'accord là-dessus. Et c'est bien parce que ce n'est pas une confusion, c'est bien parce que ce n'est pas une confusion qu'on insiste pour dire que nous communions au Saint-Esprit. Et c'est pour ça, oui, que Saint Nicolas Cabasilas, je reviendrai une autre fois, dit que la divinisation est le moment de la divinisation de l'homme, de sa transfiguration âme et corps. Il aime dire que ça se voit peut-être pas, mais n'empêche que ontologiquement, c'est ce qui se passe. Dans la mesure où nous communions au corps et au sang du Christ et remplis du Saint-Esprit, nous sommes dit, Saint Nicolas Cabasilas, nous sommes dans le moment de la communion, en fonction de notre foi, de notre préparation, tout ce que vous voulez. Nous sommes quand même divinisés, déifiés, parce que de toute façon, nous communions à l'humanité déifiée du Christ. Alors le tout, c'est d'y communier. Bien sûr, si nous présentons sans aucune préparation, avec une foi tout à fait ébranlée, sans aucune assaise, n'étant pas réconcilié avec notre prochain, etc., nous n'allons pas communier beaucoup, nous n'allons communier qu'un tout petit peu à ça. Les sacrements ne sont pas non plus magiques. Alors, oui, pour terminer ça, parce que c'est peut-être le plus important, finalement, à ce à quoi j'arrive, et qui est la conclusion du Père Schmemann et de beaucoup des théologiens de la liturgie, c'est le réalisme. Ça, je voudrais relire ça, il me semble que c'est dans Dos et d'Esprit, page 110. C'est cette idée qui, je pense, devrait être admise par tous, que les actions liturgiques ne sont pas que des symboles au sens faible, mais sont de véritables événements. Il me semble qu'il dit ça très bien, page 128. Je ne retrouve pas forcément le passage. Mais c'était ça sa conclusion, si vous voulez. C'était que c'est tout ce qui se passe dans l'Église, c'est réel. Mais nous ne sommes pas dans un système de figuration ou d'allégorie. Il faut faire extrêmement attention à ça. Le père Alexandre Schmemann était très sévère à l'égard des explications allégoriques. Vous savez, on dit l'entrée des saints dons, ça représente l'entrée, par exemple, du Christ à Jérusalem. Mais ça, cette conception représentative ou allégorique de la liturgie, pour Père Alexandre, c'est vraiment, ça appauvrit beaucoup. Lui, il insiste sur le fait que ce qui est vu correspond à un événement réel. Hein. Réellement, le Christ est présent. Par le Saint-Esprit, ce qui est quand même la théologie de la liturgie elle-même. Donc on n'est pas dans la figuration, le mémorial n'est pas une manière de rappeler les événements qui ont eu lieu, faire mémoire c'est actualiser au présent, c'est rendre présent, et je regrette de ne pas retrouver, il me semblait qu'il y avait un endroit où il disait ça très bien, j'aurais dû le noter, j'ai noté que la page, je ne retrouve pas ma page. Je sens que c'était page 110. Si, c'est peut-être ça, oui. Quand nous parlons, si, voilà, regardez. Quand nous parlons de la foi de l'Église, nous parlons de la présence en elle de la foi du Christ, de lui-même, en tant que foi parfaite, amour parfait, désir parfait. Et l'Église est la vie parce qu'elle est la vie du Christ en nous, parce qu'elle croit en ce qu'il croit, aime ce qu'il aime. Et le Christ n'est pas seulement l'objet de sa foi, mais le sujet de toute sa vie. Bon, je me semblait qu'il y avait un endroit où il disait les choses plus fortement. Oui, plus loin, il dit ça dans le baptême, nous recevons sa vie comme notre vie. Son amour et son désir comme contenu même de notre vie. Voilà, donc c'est ça qu'il faut essayer de retenir, si vous voulez, c'est qu'on est dans quelque chose qui est réel. Ça se passe véritablement. Ça me fait penser à une. J'avais d'autres choses préparées, mais je n'aurai pas le temps. Mais je vais conclure là-dessus en insistant sur ce réalisme, le réalisme sacramentel qui est celui de notre Église orthodoxe, quand même dans l'ensemble, surtout chez certains écrivains plus fervents, disons. Mais il faut lire, par exemple, Nicolas Cabazulas, il faut le lire avec discernement, parce que quelquefois, il tombe dans des explications symboliques hein, qui sont très intéressantes et qui sont un peu intellectuelles, et on perd le sens de la réalité, de l'événement sacramentel. Et en fait, quand on célèbre, effectivement, aujourd'hui, ça a lieu. Vous savez, par exemple, on dit on va célébrer la fête de, je sais pas quoi, l'Annonciation, mais cette expression est très suspecte. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer la fête de? On rappelle un événement, on fait mémoire, c'est un anniversaire, on va mettre des bougies, très bien. Mais en fait, c'est pas ça la pensée de l'Église. La pensée de l'Église, c'est qu'aujourd'hui a lieu l'ascension, la résurrection, l'annonciation. Aujourd'hui, ça a lieu. Et la preuve, c'est que les tropaires que nous chantons, très souvent, commencent par cette expression-là. Là, par exemple, le condacion de la nativité, la Vierge, aujourd'hui, met au monde l'Éternel. Là, c'est l'exemple le plus facile à trouver, disons, mais qu'on trouve très très souvent. Donc c'est-à-dire qu'on est bien dans cette conscience-là, qu'il se passe aujourd'hui, ce dont on parle, ça a lieu aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'on appelle le réalisme sacramentel. Et c'est ça qui doit nous remplir de conscience, d'émerveillement, d'admiration, de crainte, et d'une hyperconscience. Franchement, si nous avions cette hyperconscience-là, que ce dont on parle a lieu en ce moment, ça a lieu aujourd'hui, nous serions beaucoup plus présents à la présence, nous serions beaucoup plus attentifs, beaucoup plus transparents à cette présence. Je pense que les belles célébrations, les vraies célébrations liturgiques, ce sont celles où tout le monde a la conscience qu'on est dans l'événement même, et pas dans une remémoration. Ce qui a fait probablement le plus de mal à la tradition chrétienne, c'est la déformation du culte en remémoration du passé. Ça c'est terrible, ça. La transformation du présent en passé, ça c'est ruineux absolument pour la vie liturgique. C'est vrai que c'est pas très facile. Par exemple, dans l'institution eucharistique, il y a une partie narrative qui rapporte les événements et qui les rapporte au passé. Pourquoi il fit ceci, il fit cela, il prit du pain, il dit les verbes sont c'est des verbes du passé. Donc c'est vrai que ça peut induire qu'on est en train de raconter un événement, de rapporter, ça fait un peu histoire rapportée, et ça peut être une occasion de chute, disons. Mais après ça, quand le Christ dit ceci est mon corps et est mon sang, on est quand même dans le présent. Et l'invocation du Saint-Esprit et la venue du Saint-Esprit, à ce moment-là, donc, rend tout présent. Alors c'est pas la transformation du passé en présent, c'est l'inverse, hein. C'est tout le passé qui devient présent. Le Saint-Esprit rend présent et le passé et le futur dans un seul et unique moment, grand M. Voilà. Et je conclue là-dessus. Merci beaucoup.